Paul Bourget, L'inutile science. Chapitre 1. C'était la troisième fois depuis trois semaines que Michel Favanne, le célèbre député de la gauche, venait au samedi de la marquise du Coudray, ces fameux samedis qui datent de l'Empire, comme la beauté de la marquise, et ils ont conservé un vieux fonds de clientèle bonapartiste qui eut protesté, voici 10 ans, avec la dernière violence, à l'idée seule de coudoyer un ministre actuel, ou seulement possible, de la République républicaine. Mais qui n'a observé la croissance incohérente de ce que nos pères appelaient encore la société et qui devra bientôt s'appeler la cohue? Aujourd'hui, à Paris, les maîtresses de maison mettent à barioler le personnel de leur réception autant de soins que leurs aînés mettaient jadis à le simplifier, à l'unifier. C'est là un tout petit signe, entre 1000 autres, du profond changement apporté aux mœurs mondaines par la succession des crises politiques où les classes, dites dirigeantes, ont achevé d'user leur vitalité. On n'a plus, aujourd'hui, au-dessus de 50 000 livres de rente, à quelques exceptions près, d'enthousiasme vrai pour aucune cause. Par suite, les ostracismes d'opinion diminuent d'année en année, presque de mois en mois. Cette barrière une fois abaissée, la démocratie grandissante et l'invasion des étrangers ont fait leur besogne de mélange, dont la podride sociale qu'achèvent à présent la curiosité et la vanité. Et voilà comment un Michel Favanne, qui a tenu le portefeuille de l'intérieur à 2 reprises sous le présent régime, avec l'appui des radicaux d'abord, puis des opportunistes, peut se trouver un quasi-habitué de l'hôtel du Coudray, sans que les vieilles tapisseries du hall, où sont figurées les aventures d'Énée et de Didon, en frémissent d'indignation, elles dont les guerriers troyens dessinés par Lebrun ont assisté, muets, à tant de complots réactionnaires lors du 24 mai, du 16 mai et du boulangisme. Il convient d'être équitable pour un des rares hommes d'État qu'est produit l'incohérent régime où nous nous débattons. Favanne n'était pas venu chez la marquise, poussé par la sotte vanité mondaine dont les grands premiers rôles de la démocratie sont si généralement infectés dès qu'ils ont connu les banales et luxueuses délices du pouvoir. L'hôtel ministériel, les chasses chez les financiers, la truffe et le champagne quotidien du dîner en ville et le coupé au mois. Quoique sa dernière campagne contre les anarchistes, après l'attentat de Lyon et hier contre les socialistes, l'ait rendu persona gratissima auprès du parti conservateur ou de ceux qu'il en reste, Favanne n'en demeure pas moins le républicain passionné, l'intransigeant jacobin qu'il a été dans sa jeunesse, dépensé au rebours de celle de ses coreligionnaires, presque tous sortis de la brasserie dans d'immenses travaux d'histoire financière et d'économie politique. Ceux de notre génération qui ont fréquenté le quartier latin de 1875 à 1885 se rappellent bien l'avoir connu simple répétiteur de droit, et quelle passion concentrée ce maigre et chétif donneur de leçons apportait aux discussions dans les rares cénacles où il se hasardait. À 39 ans, le député ministrable de la veille et du lendemain n'a pas laissé refroidir cette flamme dévoratrice. Et si les nécessités de la tactique parlementaire l'ont forcé parfois à frayer avec ceux qu'il eût jadis appelé les Blancs, ça a toujours été avec les sentiments d'un bleu et en frémissant contre les compromis de la veulerie contemporaine. Aussi, rien n'était-il plus injuste que les propos échangés ce soir-là sur son compte par 2 des plus jolies femmes de la coterie du Coudray, Madame de Candale et Madame de la Croix-Firmin, qui, installée sur un canapé avec le peintre Félix Miro, un vieil habitué de la maison, jugeait d'un mot, tour à tour bienveillant ou malicieux, chacune des 50 personnes en train de bavarder, les unes sous les tapisseries du hall, les autres entre les lambris clairs des 2 salons, où les portraits d'aïeuses et d'aïeules plaquent des taches sombres sur les boiseries blanches. « Monsieur Favanne ne sort donc plus de chez notre bonne marquise, » disait Madame de Candale. « Je l'y ai vu voici 3 semaines. »« Et moi, voici 15 jours, » fit Madame de la Croix-Firmin. « Et moi, voilà 8 jours, » repartit Miro. Et il ajouta en souriant, avec ce rien d'hostilité d'un artiste plébéien qui, ayant réussi à être du monde, n'aime pas les nouveaux venus de la même origine que lui, « C'est l'éternelle histoire des Barnaves et des Thaliens. Les convictions de ces farouches révolutionnaires n'ont jamais tenu devant la vanité d'être reçus chez une femme comme il faut. Celui-ci devrait au moins changer son tailleur. « C'est vrai, » reprit Madame de la Croix-Firmin. « Je ne sais pas comment il se fait que si peu de ces hauts fonctionnaires d'aujourd'hui aient l'air d'un monsieur tout simplement. Ce Favanne porte bien l'habit pourtant, et avec sa physionomie si fine... » « Si fine, si fine, » interrompit le peintre, « parce qu'il est maigre et bilieux, avec un assez beau regard. Mais quelles épaules et quelles mains » continua-t-il. Cette fois, son accent exprimait le dédain d'un athlète d'atelier entraîné aux exercices physiques. « C'est un chétif à gros os, comme tous ces fils de petits bourgeois qui sont en même temps des petits-fils de paysans. Ça n'a ni muscles ni sang. » C'est de la pauvre étoffe humaine où l'usure n'a même pas de race. Ce n'est pas faute de jouer au grand seigneur et à l'impertinent, interrompit Madame de Candale, non sans avoir eu, dans ses brillantes prunelles bleues, un petit éclair de moquerie. Pour une femme comme elle, et qui a dans les veines le sang d'un maréchal de France, ami de Montluc, il y a toujours quelque ironie à entendre ce mot de race, ainsi prononcé par un Miro, eut-il encore plus de talent que ce célèbre peintre de fleurs et de portraits. « Observez, continua-t-elle, comme il écoute mal, ou plutôt, comme il n'écoute pas du tout ce pauvre général de Jardes. C'est même parfaitement mal élevé, cette distraction d'un freluquet d'avocat devant un vieux brave. « Tu le calomnies, » reprit Madame de la Croix-Firmin. Plus jeune de 10 ans que sa cousine de Candale, elle a aussi plus d'indulgence et cet intérêt des choses de l'amour qui risque, mariée à son buteur de mari, de la mener, hélas, quelques jours, sur de bien dangereuses routes, et elle insista. « Si Favanne n'écoute pas le général, ce n'est point par impertinence, c'est qu'il est très préoccupé par ailleurs. J'avais cru déjà le remarquer l'autre soir. » Et maintenant, je n'ai plus de doute, il vient ici pour Clémentine de Miossens. Tiens, ai-je raison ? À cette minute, en effet, l'attitude de l'homme que les trois interlocuteurs discutaient ainsi ne permettait guère le doute, et la nature de l'intérêt qui avait conduit le fameux orateur de la gauche dans ce salon, où se respirait jadis la plus pure fleur de l'esprit autoritaire, eût éclaté au regard d'observateurs moins avisés si les autres curieux et curieuses, épars dans l'assemblée, avaient eu l'idée de la même inquisition. Appuyé contre un montant d'une des deux fenêtres, Michel Favanne approuvait vaguement de la tête les discours que prononçait à son oreille le malheureux de Jardes, mais l'attention avec laquelle ses profonds yeux bleus, la seule beauté de son visage prématurément flétri, se fixaient sur un groupe assis à quelques pas de lui, prouvait qu'il ne les écoutait, qu'il ne les entendait même pas, ces infatigables discours. D'une de ses mains gantées de clair, il froissait nerveusement le rebord de son chapeau de soirée, de l'autre, il tiraillait sa moustache noire, dont la couleur faisait un contraste saisissant avec ses yeux clairs, son teint jaune et ses cheveux presque blancs. Il y avait quelque chose de comique dans les visibles efforts tentés par le militaire contre la distraction de l'indifférent politicien. Le visage naturellement congestionné de M. de Jardes devenait de la couleur de sa rosette, mais plus il redoublait d'insistance et de gestes, sans doute pour soutenir auprès d'un futur chef de cabinet ses théories sur la réorganisation de l'armée, plus l'autre paraissait s'en aller en pensée vers ce groupe qui le fascinait physiquement et dont le centre était la jeune femme nommée par Madame de la Croix-Firmin. Mais si cette femme, rayonnante de gaieté au milieu d'une petite cour composée de 3 attentifs, était la Marie-Antoinette de ce moderne Barnave, elle l'était, certes, sans daigner s'en douter. Elle ne jetait même pas un regard vers son lointain et muet adorateur, dont l'hypnotisme se justifiait d'ailleurs par la beauté de cette indifférente idole. La comtesse de Miossens était une de ces blondes frêles qui, à 35 ans, en paraissent 26 par la délicatesse presque gracile de leurs épaules et de leur taille, par la transparence de leur teint et aussi par un je ne sais quoi de frémissant et d'enfantin répandu sur toute leur physionomie. Elle était, ce soir-là, délicieusement habillée d'une robe de moire d'un gris d'argent, avec un fichu de mousseline de soie de la même nuance que fermait sur sa gorge mince un large diamant d'une eau admirable. Deux diamants pareils brillaient à ses oreilles. Elle ne portait aucun autre bijou, mais seulement à chacun de ses bras un lourd bracelet d'or vierge tordu en tresses, de ceux qui servent en Orient de cadeaux de mariage. Ses doux yeux, d'un bleu très sombre, éclairaient d'un peu de vitalité les pâleurs de son joli visage presque trop long. La tête penchée, comme plongée sous la lourde masse de ses cheveux dorés, elle souriait d'un sourire fin, languissant et câlin, qui donnait l'impression d'une sensibilité toute jeune, en effet, à la fois audacieuse et timide, passionnée et contenue. Des hommes assis auprès d'elle, deux étaient d'un âge déjà mûr, et le troisième, un garçon de 22 ans à peine, admirable fleur d'aristocratie, où se devinait l'hérédité d'un noble sang, cultivé, préservé, on oublie encore par l'influence d'une mère distinguée. Aucune des 20 ou 30 grandes dames réunies dans ces salons et qui causaient, souriaient, s'éventaient parmi toutes les élégances des toilettes et dans ce décor d'une opulente demeure disposée comme à souhait pour encadrer la beauté féminine, non, aucune n'était plus gracieuse à regarder, plus fine dans ses mouvements, plus jolie enfin que ce joli jeune homme, et il était évident qu'il intéressait un peu trop la comtesse Clémentine. Du moins, les trois personnes, que le hasard et leur malice rendaient témoins de cette scène, ne s'y méprirent pas une seconde. « Eh bien, si Favanne vient ici pour Clem, je crois qu'il perd terriblement son temps, » dit Madame de Candale. « La voilà en coquetterie réglée avec le jeune Edmond de Bonnivet, » fit Miro. « Elle est étonnante, cette petite femme. Avec ses façons d'archange en visite sur la terre, elle va, elle va. »« Elle est si mal mariée, » dit l'indulgente Madame de la Croix-Firmin. « C'est égal, » reprit Madame de Candale, « si la pauvre Yolande vivait encore, elle qui prétendait, tu te rappelles, garder son Edmond pur comme une jeune fille jusqu'à son mariage, elle lui défendrait ce flirt-là. » Mais, dit Miro, Evie de Ville, il laisse donc Clémentine le lâcher, sans crier gare. Cela m'étonne, il en était si amoureux et c'est un si mauvais homme. Le voilà justement qui entre dans le salon, reprit Madame de la Croix-Firmin, et frissonnant de ses minces épaules, vous croyez que Clémentine l'a aimé? Je comprends Edmond, il est gentil. Je comprendrai Favanne, il a l'air intelligent. Mais celui-là, tenez, je ne peux pas y croire. C'est comme si je voyais une de nous distinguer un domestique. » Le personnage qui venait de paraître et qui se dirigeait vers la vieille marquise du Couldray pour la saluer offrait dans sa physionomie quelque chose de si brutal, presque de si bestial, que la répugnance exprimée avec tant de vivacité par la jeune femme se justifiait autant que la faiblesse de la délicate Madame de Miossin s'expliquait peu, si la légende mondaine rapportée par Miro n'était pas une simple calomnie, et si cet homme était, ou avait été, l'amant de cette exquise créature. François de Videville pouvait avoir 35 ans. Il était très brun, avec un visage tourmenté que la barbe envahissait jusqu'au bord des narines. Sous des sourcils épais, ses yeux noirs, très petits et très enfoncés, dardaient un regard dur, insistant, presque prenant. La bouche, sensuelle et dégoûtée tout ensemble, avec des lèvres renflées que la moustache détachée sans les couvrir, donnait l'impression d'un mufle plus animal qu'humain. Malgré cela, une singulière élégance, mais tout animal aussi, se dégageait de toute l'attitude. Ce corps, resté mince et que l'on devinait très musclé, avait une grâce virile que précisaient encore des manières très surveillées et une entente supérieure de la tenue masculine. Quand ce dangereux seigneur eut baisé la main de la marquise du Couldray, ses prunelles aiguës parcoururent le grand salon. Elles finirent par se poser sur Madame de Miossens et le jeune Edmond de Bonnivet avec une cruauté qui fit dire à Miro, baissant la voix malgré lui, je regrette vraiment d'être un simple peintre de fleurs. Quel modèle pour un Othello! C'est aussi l'avis de notre amie Clem, répondit Madame de Candale. Elle l'a vu. Regardez-la maintenant. Pauvre femme, fit Madame de la Croix-Firmin. C'est vrai, ses traits se sont décomposés de terreur. Comme elle est devenue nerveuse maintenant qu'il est dans la chambre. Elle ne répond même plus à Edmond qui n'y comprend rien. Vous avez raison, il a bien l'air d'avoir été ou d'être son amant. Avouez que ce n'est pas d'un galant homme de torturer quelqu'un à ce degré-là sous prétexte d'amour. Si j'étais elle... Probablement, il la tient par quelque menace, dit le peintre, qui ajouta, après un silence, elle aura commis la faute d'écrire des lettres. Vous ne croyez pas Videville capable d'envoyer ses lettres au mari ou de les montrer à des tiers ? Interrompit Madame de la Croix-Firmin. Ce serait trop infâme. Au mari, non. À des tiers, non encore, mais à un tiers, à Edmond par exemple, reprit Miro. Mais oui, insista-t-il sur un geste des deux femmes. Il y a des hommes qui ne se font pas scrupule de ces vengeances-là. Tel que vous me voyez, il y a 25 ans, lorsque je commençais d'aller un peu dans le monde, un monsieur aussi gentilhomme que Videville m'a joué ce tour. J'étais parti pour une personne plus adorable que la comtesse Clémentine et dont le monsieur avait été l'amant. Il a deviné que je plaisais et, sous prétexte de confidence, il m'a prouvé, pièce en main, qu'elle avait été sa maîtresse. Et, haussant ses larges épaules, il ajouta « J'étais jeune et sentimental autant que peut l'être le petit Bonnivet. Il me fut impossible de la revoir. » Quelle vilenie on rencontre au fond de ces soi-disant histoires d'amour, fit Madame de Candale. Et que c'est plus propre d'être une honnête femme, tout simplement, et plus commode. Hors du droit chemin, quelle complication! Regardez comme la terreur de Clémentine continue, comme elle augmente. Voyez-la pendant que Videville la salue. Les deux amants, car cette fine et délicate Madame de Miossens avait bien réellement été la maîtresse de ce sinistre personnage, se trouvait maintenant en face l'un de l'autre. Lui s'était approché d'elle, sans cesser une minute de la fixer, de la plomber, comme dit l'énergique argot des faubourgs, de son étrange et dur regard. Aucun des hommes avec qui causait la jeune femme ne paraissait s'être douté du magnétisme de terreur sous lequel s'inclinait sa tête fragile. Tout au contraire, les deux plus âgés avaient eu, pour accueillir Videville, cette cordialité où la camaraderie de club mélange deux francs-maçonneries, celle de la casse et celle du plaisir. Le transparent visage d'Edmond de Bonnivet, surtout, s'éclairait d'un sourire de sympathie. Évidemment, l'autre s'était donné la peine d'exercer sur le débutant une de ces séductions si faciles d'aîné à cadet, quand l'homme mûr étale savamment le prestige d'une expérience où le nouveau venu à la vie du monde croit apercevoir un infini de supériorité. Videville appuya sa main sur l'épaule de son jeune ami et il regarda de nouveau sa maîtresse avec un air d'insolence bravade qui augmenta encore la nervosité de la pauvre femme. Cette scène muette dura ce que durent ces scènes dans un salon, l'éclair d'un instant, et déjà Madame de Miossens, redevenue plus forte que ses nerfs, causait aussi gaiement, aussi insouciamment, semblait-il, que tout à l'heure. François de Videville s'était déjà rapproché de notre groupe. Edmond de Bonnivet avait pris l'éventail de la comtesse Clémentine, qu'il ouvrait et refermait de ses longues mains aux beaux doigts minces, comme avaient dû être ceux de sa mère, et la conversation continuait d'autre part entre Miro et les deux amis. J'en suis toujours pour ma petite idée, disait le peintre. Videville tient la comtesse par des lettres et il est décidé à les montrer à Edmond si le flirt s'accentue. Et ce hanneton de Favanne qui va donner dans ce guépier, reprit Madame de Candale. Regardez-le, il manœuvre pour l'aborder maintenant. Il vient de se débarrasser du général. Il la salue à son tour. Quel tact pour un homme d'État! Il ne se doute pas qu'elle va lui en vouloir d'avoir fait partir Edmond. Si elle ne lui tourne pas le dos séance tenante, il aura de la chance. Le jeune Bonnivet s'était levé, en effet, à l'arrivée de Favanne, et les deux autres, attentifs, l'avaient imité, soit qu'ils fussent depuis trop longtemps auprès de Madame de Miossens, soit qu'un vieux fond d'antipathie politique leur rendit la présence du député républicain peu agréable. Pourtant, la prédiction de Madame de Candale fut démentie et d'une manière si brusque, si inattendue, qu'elle arracha une dernière exclamation d'étonnement, non pas seulement à elle-même, mais à Madame de la Croix-Firmin et à Miraut. Durant les quelques minutes que la comtesse Clémentine et Favanne se trouvèrent seuls en face l'un de l'autre, l'homme d'État se mit à parler très bas et très vite à la jeune femme. Une espèce de saisissement se peignit sur le joli visage de celle-ci. Ses yeux regardèrent Favanne avec un regard scrutateur, défiant, appuyé, où il ne se lisait aucune trace de mécontentement. Son plus frémissant sourire d'enfant ému flotta sur sa jolie bouche qui s'ouvrit pour répondre, elle aussi, à mi-voix. Comme la maîtresse de la maison, la bonne marquise du Couldray s'approchait à son tour. Cet énigmatique aparté ne dura pas une seconde de plus. Il avait suffi pour justifier les commentaires qui s'échangeaient entre le peintre et ses confidentes. « Savez-vous que votre hanneton de Favanne, comme vous dites, me donne l'idée d'une très fine mouche, au contraire ?» s'écria Miraut. « Et nous, qui nous imaginions qu'il venait ici se rendre malheureux. Elle est en coquetterie réglée avec lui aussi. Et de trois. » Mais où a-t-elle pu le connaître ? Demanda Madame de Candale. « Il ne va ni chez elle, ni chez aucune de nous. » « C'est pourtant vrai qu'ils ont l'air très amis, » fit Madame de la Croix-Firmin. « Bien, peut-être a-t-elle envie que Miossens rentre dans la diplomatie et l'appui de Favanne y aiderait ferme. Pourquoi n'offrirait-on pas, en effet, quelques légations à ce brave Adhémar ?»« Pourquoi ?» répondit le peintre en riant. Il avait de l'esprit et faisait des mots qu'il filait un peu trop. « Oui, pourquoi n'offrirait-on pas une légation à ce pauvre Adhémar ?» Mais parce qu'il accepterait, ajouta-t-il finement. Non, non, la comtesse Clémentine flirte avec Favanne, voilà un premier fait. Elle flirte aussi avec Edmond de Bonnivet, voilà un second fait. Et Videville n'est pas encore congédié, voilà un troisième fait. Je suis tranquille, d'ailleurs, conclut le peintre avec philosophie, en regardant de nouveau l'héroïne de ces trois aventures, ou ébauche d'aventure. Elle s'en tirera. « Ah, elle connaît la navigation, votre belle amie !»